Nous avons à sponsoriser votre chaire, c'est vraiment pour nous un honneur. Et c'est pour moi un honneur d'être là et de vous présenter quelques idées sur les renouvelables catalyseurs de mutation. Intervenir après le président Mestrallet, et je le savais hier, était un challenge. C'est encore plus fort maintenant, après tout ce que vous avez dit, que bien sûr je partage, nous partageons. Donc je vais essayer de le faire avec un angle légèrement différent, mais parfaitement complémentaire. Et je vais regarder davantage et creuser devant vous les questions sur certaines énergies renouvelables, et en particulier une. Alors, je vais commencer. Hier, Yves Coppens parlait du singe qui regardait à travers le trou de la serrure. Je ne savais pas comment trop vous le présenter aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est Solar Impulse, l'avion solaire de Bertrand Piccard, volant au-dessus de San Francisco, et vous repérez le Golden Gate. C'est une aventure extraordinaire. Ça n'est pas pour faire voler des avions au solaire. Ça n'est pas pour faire voler des avions au solaire. C'est simplement pour montrer qu'en prenant des composants aujourd'hui sur le marché, en les assemblant en système de manière intelligente, vous pouvez avoir une aventure exceptionnelle qui est de voler au solaire et l'année prochaine de faire le tour du monde. En passant, ce sont nos cellules qui sont sur les ailes, les cellules de Total Sun Power. Donc c'est « Yes, we can ». C'est plutôt ça le message et c'est ça que je voudrais que vous ayez en tête à travers les différents propos que je vais maintenant faire. D'abord, je voudrais poser un peu le décor. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup de formes différentes, de maturités différentes qui vont de la biomasse, le solaire, l'éolien, les énergies marines, la géothermie et d'autres. Je ne peux pas couvrir ce champ, je ne vais pas couvrir ce champ. Total s'est intéressé à deux dans ces énergies, la transformation de biomasse en biotechnologie par les biotechnologies et le solaire photovoltaïque. Et donc je vais plutôt me concentrer sur le solaire photovoltaïque, si vous me le permettez, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas, bien entendu, d'intérêt, même si elles sont de maturité différente. Quand vous regardez les perspectives de l'AIE, aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie, vous prenez le couple éolien-solaire, qui, on va dire, sont les énergies intermittentes les plus matures derrière. Mature ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des progrès encore beaucoup à faire devant elles. Elles pèsent aujourd'hui 1% de l'énergie primaire. 1%. 2,3% du bouquet électrique, du bouquet énergétique de transformation électrique. Quand vous comparez à la biomasse fait 10% aujourd'hui l'énergie primaire du monde. L'hydroélectricité fait 16% du bouquet électrique mondial. En 2025, dans leur perspective, l'AIE prévoit que ces chiffres passent de 1 à 2,7%, on va dire x3 pour l'éolien et le solaire sur l'énergie primaire, et 8% du bouquet électrique mondial. Ces chiffres à l'échelle européenne sont légèrement plus élevés, 5% dans leur perspective et 18,8% pour éolien et solaire à l'échelle de 2025. Quand vous prenez l'Allemagne, qui a été effectivement mentionnée par vous, M. Mestrallet, l'Allemagne est plus en avance, ce qui leur pose, comme on l'a vu, un certain nombre de problèmes. En 2025, ils prévoient d'être à 22% sur l'éolien dans leur bouquet électrique et 8% sur le solaire. Et au total des renouvelables, en incluant la biomasse et l'hydro, etc., on arrive à 43% d'énergie renouvelable. Dimanche dernier, pendant toute une partie de la journée, ils ont tourné à 75% sur les renouvelables, dimanche dernier, avec évidemment la contrepartie, c'est-à-dire des prix négatifs pendant une partie de l'après-midi, quand le solaire était un peu au zénith et qu'il y avait, il se trouvait aussi du vent qui soufflait sur la mer du Nord. Quand vous prenez les prévisions des industriels du solaire, et là je viens un peu plus sur le solaire, quand vous prenez les prévisions des industriels du solaire, vous avez évidemment des chiffres un peu plus élevés que je vais modérer, parce que là maintenant je vais vous donner nos chiffres un peu à nous, Total, sur le photovoltaïque, puisque aujourd'hui Total est le troisième acteur mondial dans le solaire, ça se sait peut-être pas beaucoup, mais nous sommes le troisième acteur mondial à travers notre filiale qui s'appelle SunPower, américaine, mais qui est un groupe mondial. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le parc installé va être multiplié par 4 d'ici 2020 pour arriver à environ 500 gigawatts installés dans le monde, contre 134 gigawatts en 2013, aujourd'hui installés dans le monde. Avec un rythme annuel d'installation, c'est-à-dire l'industrie elle-même, dont sa capacité d'installation annuelle, va passer à environ 65-70 gigawatts contre une capacité aujourd'hui de 36, ce qui veut dire x2 d'ici 2020. Si vous prenez des perspectives à plus long terme, 2035 et plus, nous estimons que le parc installé mondial devrait franchir les 2 terawatts quelque part entre 2030 et 2035. Ce qui veut dire que le solaire photovoltaïque ne pèserait que 20%, si vous voulez, alors je dis que, on pourra commenter le que, 20% de la capacité installée mondiale et seulement 8% de la production électrique mondiale. Et c'est une vision plus optimiste que celle qu'a présentée l'AIE ou un certain nombre d'instituts. Donc mon premier commentaire, je voudrais qu'on garde en tête, c'est que même en prenant des scénarios optimistes, dans lesquels l'industrie solaire est elle-même dans une forme d'exponentielle et donc en tension de croissance, on arrivera à ce que l'énergie électrique mondiale soit couverte par 8% de solaire. Et ceci est considéré évidemment comme optimiste. La croissance du solaire se fera après, parce qu'elle est cumulative et exponentielle, et donc ce sera sur un certain nombre de décennies. Il est clair que le solaire, du côté, on va dire, de sa puissance, le solaire, en 90 minutes, la Terre reçoit l'équivalent de ce qu'elle consomme en un an en termes d'énergie primaire. Donc en termes de potentiel, je veux dire, la question n'est pas là, elle est là. Tout le problème, c'est transformer le solaire incident, les photons, en électrons de manière économique, utile, économique, etc. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, sur lequel je partage absolument ce que vous avez dit, la mutation est en marche, elle est inéluctable, elle prendra du temps, on sera dans un monde de coévolution entre, je vais reprendre votre expression, le monde ancien et le monde nouveau, c'est une coévolution des deux sur un certain nombre de décennies. Mais les leviers de changement, les leviers de cette mutation sont là aujourd'hui, ils sont en marche, ils sont sous-jacents, ils sont trois. Les technologies, les systèmes et les comportements, c'est-à-dire finalement les comportements de l'homme, hein, puisque c'est le sujet du colloque. Et le troisième, effectivement, le digital, le numérique. Ces trois sujets sont à l'œuvre. Alors commençons par les technologies. Alors les technologies sont en pleine mutation. Alors je sais, hier, je voulais vous parler de Darwin, je me suis fait littéralement, donc Darwin non, on va dire que les technologies sont en sélection naturelle, puisque Darwin implique une reproduction et que les technologies ne sont pas en mode de reproduction. J'espère que j'ai bien, mais enfin vous voyez un peu l'idée derrière. Donc aujourd'hui, il y a un foisonnement de technologies dans le solaire. Vous preniez les siliciums cristalliens, que vous preniez les tellurides de cadmium, ou que vous preniez les couches minces en cuivre, indium, gallium, sélénium, tout ce que vous voulez. Il y a un foisonnement derrière, dans ce que vous voyez sur votre toit. C'est pas forcément ce que. C'est plein de technologies, et elles sont pleines d'évolution. Elles combattent les unes par rapport aux autres, par rapport à un couple usage-prix, usage-compétitivité. Et rien n'est joué, rien n'est gagné. Cette sélection naturelle est à l'œuvre. Les prix des modules ont été divisés par 5 en 5 ans, par 2 entre 2011 et 2013, avec une crise, un typhon, si vous voulez, sur l'industrie solaire qui n'avait jamais eu ça. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'industrie qui ait eu ce type d'ouragan sur elle en l'espace d'un an. Ce qui s'est passé, et ça c'est un autre message que je voulais faire passer, c'est que le changement ne se fait jamais sur un seul levier. Il se fait lorsqu'il y a concordance improbable, et donc hasard darwinien, lorsqu'il y a concordance entre un certain nombre de facteurs. Et là, il s'est passé quelque chose avec une concordance. Vous avez eu une évolution favorable des technologies, mais ça ne suffisait pas. Vous avez eu ce qui s'est mis en place en Allemagne post-Fukushima. Vous avez eu les Allemands qui ont accéléré en mettant des feed-in tarifs, c'est-à-dire des tarifs de rachat d'électricité, et avec une accélération en Allemagne en termes de volume, ce qui leur a coûté évidemment beaucoup d'argent. Et dans le même instant, vous avez les Chinois qui ont décidé de conquérir le monde dans le domaine et qui ont subventionné, vous pouvez appeler ça le dumping, massivement leur industrie. Et c'est la concordance de ces trois facteurs qui a conduit à ce que le solaire photovoltaïque soit avec les prix que vous voyez aujourd'hui et dont je vais vous parler, et qui crée l'élément de transformation et de changement. S'il n'y avait pas eu concordance, nous n'en serions pas là. Les prix que nous avions mis, que nous avons présentés au comité exécutif du groupe pour l'achat de SunPower, ces prix que nous avions mis il y a 3 ans, pour l'année 2020, ils sont aujourd'hui en 2014. Autrement dit, 6 ans d'accélération. Ça n'a pas été sans poser quelques problèmes. Dans ce temps, les technologies se sont mises en mode survie. Il a fallu survivre ces temps difficiles, mais il reste encore des gisements importants d'amélioration. Je vais vous les citer pour baisser les prix. Hein, quand je dis des gisements importants, vous comprenez que, en tant qu'industriel, nous, c'est toujours de baisser les prix et d'améliorer le couple usage, performance, prix, par rapport à l'ensemble des bouquets énergétiques. Les technologies du solaire sont encore loin d'être matures. Il y a de l'incrémental, du disruptif. Le disruptif, c'est-à-dire des technologies qu'on n'imagine pas forcément complètement aujourd'hui et qui vont sortir et qui peuvent éventuellement être l'espèce dominante à un moment. La nanophotonique, par exemple, aujourd'hui, offre des perspectives intéressantes, les cellules perovskites, et surtout de retrouver les synergies entre le monde des semi-conducteurs qui a très fortement évolué dans les 10 dernières années, qui était à l'origine du photovoltaïque, et le photovoltaïque, je crois que ces synergies, on va les retrouver. Quand vous regardez ce qui se passe en Corée, par exemple, sur les écrans plats, ces technologies écrans plats peuvent être extrêmement intéressantes pour développer des nouvelles technologies dans le domaine du solaire. Ce sont aussi les développements des technologies d'industrialisation des usines 4.0. C'est l'industrialisation des systèmes, parce qu'un module photovoltaïque tout seul, ça ne sert à rien. Il faut l'installer quelque part, rajouter des onduleurs, tout un système électronique. Et donc, l'industrialisation de ces systèmes est importante. Et enfin, et je voudrais insister là-dessus, plus les modules, les systèmes baissent en termes de prix, plus l'élément différenciant, c'est le financement. Le prix de l'électricité aujourd'hui généré par l'éolien ou par le solaire, une partie importante de ce prix de l'électricité vient des financements, à tel point que ça devient presque la partie la plus importante. Puisque vous mettez au départ des capitaux investis lourds, et pendant 25 à 30 ans, vous avez des productions avec des coûts marginaux extrêmement faibles, un coût de maintenance faible, et une matière première gratuite. Et donc, la ressource importante est une ressource financière. Les Chinois l'ont bien compris, parce que vous les voyez gagner beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui dans le monde, notamment dans le domaine de l'éolien, parce qu'ils mettent des taux d'intérêt très bas, très bas. Les Japonais, par exemple, aujourd'hui ont des taux d'intérêt au Japon de l'ordre de 2%. 2%. Bon, ils ont moins de chance, le prix de la terre, et vous allez voir que le solaire est une énergie de territoire, le prix de la terre est très élevé, donc ça compense derrière. Donc aujourd'hui, le photovoltaïque est compétitif sans subvention dans une quinzaine de pays dans le monde. Dans une quinzaine de pays dans le monde, sans subvention. Il est compétitif face au diesel en Afrique, en Arabie Saoudite. Il est compétitif face au gaz naturel liquéfié avec des prix asiatiques dans des pays où l'électricité est chère. Derrière, il est compétitif en Allemagne parce que les prix d'électricité sont très chers. Quand vous mettez du solaire sur votre toit en Allemagne, ça vous coûte 14 centimes d'euros pour l'électricité que vous générez pendant 20 ans. Vous payez 28 à 29 centimes aux fournisseurs d'électricité en Allemagne. Donc évidemment, vous avez intérêt très rapidement à mettre du solaire. Sauf que ça pose beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est la mutation qui est en marche. Pour le futur, l'onde va se propager, et ces 15 pays dans lesquels c'est compétitif, nous anticipons que dans les 5 ans qui viennent, pratiquement tous les pays ensoleillés seront à ce niveau de compétitivité, y compris la France. On parle aux États-Unis de cibles assez rapidement de 5 à 6 centimes de dollars par kilowattheure. Ils y sont déjà, mais avec des subventions. Mais dans les 5 ans qui viennent, ils y seront sans subvention. On prévoit des baisses significatives qui permettront à ce que le solaire, sans subvention, rentre naturellement, trouve sa place dans le bouquet énergétique. Mais rappelez ce que je vous disais, 8% 2030-2035. Donc c'est Pour nous, solaire, c'est énorme. À l'échelle du monde, il faut quand même mesurer. Ça peut être disruptif dans certains endroits, mais pas partout. Je veux dire, c'est... En Allemagne, quand vous regardez au troisième trimestre 2013, le prix moyen était autour de 7,8 centimes. Pas le prix moyen, ça s'étageait dans une fourchette. 7,8 centimes d'euros du kilowattheure à 14 centimes d'euros du kilowattheure pour l'électricité générée par le solaire. Deuxième trimestre 2013. Pas pour les installations anciennes, pour celles pour le futur, car c'est tout un problème en France. On a tendance à regarder dans le rétroviseur, on regarde les prix venant du nucléaire amorti, et on compare ça avec du solaire d'il y a deux ans, toujours dans le rétroviseur. Il faut regarder le futur. Regardez le futur, le nucléaire anglais, 105 euros, je crois, 109 euros du mégawattheure, avec en plus une indexation qu'on ne connaît pas très bien. Et regardez l'appel d'offres le dernier, le prix le plus bas de l'appel d'offres français sur le photovoltaïque. Les prix sont sortis à 93 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 0,9 centimes d'euros du kilowattheure. Et l'opérateur qui a gagné ce projet gagne de l'argent. Deuxième message, système ou deuxième levier, système et comportement. Le photovoltaïque est une énergie de territoire. Et donc, vous avez quelque chose dans lequel vous pouvez produire sur votre toit. Donc, comme l'a dit M. Mestralet, on va devenir un producteur-consommateur, quelque part, ce qui change quand même un petit peu les choses. Mais vous pouvez avoir aussi des choses qui se passent au niveau du village, au niveau du département, au niveau de la région. Donc, vous avez quelque chose... Surtout pas le voir en opposition. Il faut le voir, il y a différentes strates entre le national, l'international, etc., et les différents niveaux. Ce qui veut dire que vous avez des niveaux de solidarité qui changent. La solidarité classique du monde ancien, on va dire, la nation vers le peuple, change, puisque vous allez vous retrouver avec une solidarité locale. Est-ce que vous allez, quand vous allez avoir trop d'électricité, le vendre à votre voisin, l'échanger avec votre voisin, commencer à rentrer dans des choses différentes? Est-ce que c'est le village qui va vouloir faire sa coopérative? Comment est-ce que tout ça va se recréer, se retisser? Donc vous voyez bien que vous avez une évolution des mécanismes de solidarité à terme. Parce que le solaire est une énergie de territoire, et lorsqu'il sera économique pour tous, tout le monde y aura accès. C'est une évolution profonde des marchés. Vous en avez parlé. Je voudrais simplement faire une toute petite parenthèse pour apporter de l'eau à votre moulin, Monsieur Mestralet. Le gaz et les renouvelables ont une solidarité, un couple merveilleux. L'un est intermittent, l'autre est flexible. Donc il y a une solidarité technologique derrière. Mais il y en a une autre. Le gaz, vous n'êtes pas capable de savoir quel est son prix dans les années qui viennent, puisque c'est un peu fonction du prix de l'énergie fossile dans les différents pays. On n'est pas capable. Et donc, vous n'êtes pas capable de dire quel est le prix de l'électricité induite par le gaz dans les années qui viennent. Par contre, les énergies renouvelables, une fois que vous avez fait l'investissement, comme les météos, tout ça, c'est quand même des technologies sur lesquelles on est quand même capable à peu près de maîtriser combien il y a d'heures de soleil par an en moyenne, dans un foisonnement. C'est un prix fixe. Vous savez quel sera le prix dans 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et donc, il y a une combinaison naturelle gaz-solaire, une sorte de hedge à la fois technologique et de prix. Ce qui veut dire que ce couple gaz-renouvelable est certainement un des couples d'avenir. Je reviens à l'évolution des comportements. Vous avez aussi cette différenciation dont vous avez parlé, qui est croissante entre l'OCDE et le non-OCDE. La question n'est pas la même. En Europe, croissance faible, voire négative, comme on l'a dit, sur l'énergie, infrastructure établie. Dès que vous rajoutez des renouvelables, vous se pose immédiatement le problème des coûts échoués et donc de la fermeture d'unités presque neuves. C'est un problème sur lequel, évidemment, l'Europe doit se pencher. Dans les pays émergents, ce n'est pas le sujet, puisque forte croissance, infrastructure insuffisante. Donc, vous pouvez y aller et développer des renouvelables sans créer une perturbation trop forte sur le monde établi. J'en viens maintenant à le monde du numérique, mais pourquoi ? C'est que vous avez une complexité croissante dans ce que je vous ai décrit. Vous ne pouvez pas imaginer le monde ancien, monde centralisé, avec des usagers et simplement des tuyaux qui fonctionnent toujours dans le même sens. Demain, comme on l'a décrit, des millions de producteurs-consommateurs, des millions d'intérêts divergents, un système beaucoup plus complexe dans sa gestion derrière. Et là, je dirais, c'est la même chose en biologie, tout système est amené à évoluer vers un degré supérieur de complexité. sinon il disparaît. Et donc c'est le défi, c'est le challenge de l'industrie électrique dans cette évolution, complexité croissante. Il ne faut pas en avoir peur, c'est comme ça. Derrière, au contraire, ça peut donner des éléments de beaucoup plus grande stabilité. Je me retourne vers tout le monde scientifique de la recherche médicale. C'est bien ce qui se passe dans l'homme, hein. Entre Yves Coppens, ce qu'il nous a décrit, et aujourd'hui, je pense que le cerveau humain a quand même évolué. Et bien, le monde de l'électricité va faire la même chose. Cette convergence entre les flux d'électrons et les flux d'informations est un levier puissant de changement parce que derrière, vous avez l'apport du numérique. On ne pourra pas gérer cette complexité sans l'apport du numérique. Et il se trouve, et c'est l'élément aujourd'hui qui est un élément rassurant, c'est que les technologies du numérique sont là. C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui numérique, les objets connectés, les technologies sont là. Elles sont là. Ce qui n'existe pas encore, c'est les algorithmes qui permettent de faire communiquer les choses. C'est-à-dire que quand vous serez chez vous, vous aurez un panneau solaire sur votre toit, une batterie, un système de batterie, c'est-à-dire de stockage chez vous, à côté du frigidaire, vous aurez votre voiture hybride rechargeable. Je préfère hybride rechargeable, hein, parce qu'au moins, il y a encore un peu de pétrole quand même. Donc, hybride rechargeable. Derrière, vous aurez besoin d'un système de management de ceci, vous aurez toujours besoin du réseau. Vous ne serez jamais autonome complètement, parce qu'il peut y avoir un nuage, la nuit, etc., une tempête, tout ce que vous voulez. Donc, il y a besoin d'avoir de facteurs d'ajustement importants. Et donc, vont se développer des tas de nouveaux métiers pour optimiser tout ça. Mais vous voyez bien que derrière, c'est des objets connectés, des bee-box, des box, enfin, pardon, j'aurais pas dû dire, box, des objets communicants, tout ça par Internet. Les algorithmes qui permettent de faire tout ça, d'optimiser tout ça, n'existent pas. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ces objets eux-mêmes existent. Il n'y a pas besoin, c'est comme l'iPad. La technologie de l'iPad existait 10 ans avant que l'iPad sorte. L'innovation, ça a été de les mettre ensemble avec les algorithmes pour faire communiquer tout ça, d'où votre iPad. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant, mais enfin, il y a encore beaucoup de travail. Mais le numérique est un élément certainement qui permettra d'accélérer et d'améliorer ceci. Complexité croissante. Il n'y a pas de complexité croissante sans plus de régulation. C'est aussi vrai dans le corps humain, donc je ne vois pas pourquoi c'est pas plus vrai, aussi vrai dans le monde électrique ou le monde de l'énergie. Complexité croissance, plus de régulation. Plus de solidarité, plus de régulation. Une régulation plus complexe. C'est probablement le frein dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est que les pouvoirs publics, quel que soit l'endroit dans le monde, ne l'ont pas encore senti et ne sont pas forcément prêts à pouvoir le faire. J'allais dire, c'est un... Et je pense que dans tout ce que je vous ai décrit, c'est certainement le point de fragilité. Les perspectives. J'ai encore un peu de... Les perspectives. Je vous ai dit que les trois leviers étaient à l'œuvre. Technologie, révolution du numérique, évolution des comportements sociologiques, sociétales. Cela crée de nombreuses difficultés. Difficultés du monde établi. Résistance de ce monde établi avec opposition frontale entre le monde établi et de l'autre côté toute une série de tenants du monde de l'écologie qui souvent de manière excessive veulent accélérer la transition vers le monde nouveau. Et c'est là où je voudrais introduire cette notion de coévolution. Ça n'est pas une transition, puisque vous ne savez pas où vous arrivez. Ça n'est pas une transition, c'est une coévolution. Je garde toujours mon image, non pas darwinienne, puisque je vais me faire fusiller, mais je veux dire, quand vous lisez Pascal Pic sur son livre récent de Darwin à Lévi-Strauss, il montre bien la coévolution derrière. Ben, c'est la même chose. Le monde ancien et le monde nouveau, je reprends votre expression, vous me le permettez, vont co-évoluer. La voiture électrique ne va pas comme ça remplacer la voiture thermique. C'est une illusion. La voiture thermique, dans un mode de survie, va s'améliorer. Et vous parlez aujourd'hui du véhicule à 2 litres. On n'en parlait pas il y a 3 ans. Simplement parce que la menace a conduit tout ce monde-là à essayer de s'améliorer. Si vous voulez, la voiture n'a pas remplacé la carriole, le cheval, comme ça, hein. Derrière, mais à la fin, elle l'a fait parce que c'était usage-coût meilleur. Eh bien là, on est dans des choses pareilles. C'est une coévolution. La voiture électrique va forcer le véhicule thermique à s'améliorer, et évidemment vice-versa. Une fois que la voiture thermique s'est améliorée, va forcer le véhicule électrique à trouver un meilleur couple usage. Le problème de la voiture électrique, bon, à la fois les coûts, enfin c'est aussi la, combien vous faites de kilomètres avec, quoi, je veux dire, derrière. Donc si vous faites 600 km ou 800 km avec une voiture thermique, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec 100 km derrière. Donc vous voyez bien qu'il y a une évolution conjointe, enfin co-évolution derrière. On pourrait dire la même chose sur le marché électrique, hein. Co-évolution, c'est la même chose. Vous voyez bien que plus vous mettez de renouvelables intermittents, plus vous avez besoin de flexibilité, et aujourd'hui le marché électrique ne reconnaît pas, ne rémunère pas cette flexibilité, d'où les problèmes des centrales à gaz derrière, parce qu'en Europe, vous fixez des prix qui sont liés, le marché ne rémunère que les prix marginaux, le gaz est sorti. Voilà. Il rémunérerait ce qui serait normal dans tout système normal, les coûts complets, le gaz passe largement avant le charbon. Voilà. Donc ça veut dire que l'ensemble du marché électrique européen doit être repensé. Il doit être repensé autour d'un équilibre plus, mieux construit, on va dire, entre la puissance, les watts, l'énergie, les kilowattheures, et la flexibilité, c'est-à-dire la combinaison watt-temps. Derrière, on a un gros travail là-dessus. Hein, derrière. C'est bien de la co-évolution. Tout ceci va prendre du temps. Ne croyez pas que c'est quelque chose comme ça, là. Ça va prendre des décennies. Mais c'est en marche. C'est absolument, j'allais dire, on ne peut pas l'arrêter, et il ne faut pas l'arrêter, évidemment. Derrière, c'est absolument, on dirait, c'est quelque chose pour moi qui va modifier en profondeur la société. Et là-dessus, je voudrais terminer juste pour vous dire, j'ai un petit-fils.
Il est grand comme ça.
Oui, grand comme ça. Au bout de sa main, là, au bout de sa main, il y a le portable ou l'iPad. Comme dit Michel Serres, petite poussette, alors lui c'est un petit pousset, mais petite poussette, c'est le moteur le plus puissant du changement. Mes petits-enfants, alors je pense que mes enfants vivront tout ça, mes petits-enfants encore plus, mais eux géreront l'énergie d'une manière complètement différente de celle dans laquelle nous l'avons pensée. Et donc, c'est cette mutation que je vous décris, cette mutation sur plusieurs décennies, et sur laquelle je pense que le photovoltaïque jouera un rôle important, mais dans un bouquet. Il ne fera pas tout. Vous ne chargerez pas tous votre véhicule hybride rechargeable avec le solaire qui est sur votre toit. Certains d'entre vous le feront de plus en plus, mais on a besoin de toutes les formes d'énergie et les problèmes en Europe ne sont pas les mêmes qu'en Inde, effectivement, au Brésil. Au Brésil, c'est l'éolien qui gagne aujourd'hui partout contre les énergies. C'est le couple éolien-hydroélectricité hein, qui gagne au Brésil aujourd'hui. C'est des appels d'offres multi-énergie, voilà, derrière. Donc on voit bien que ce monde est en pleine transformation et là, nous partageons totalement ce qui oblige les entreprises à se réinventer en permanence. Ce qui fait qu'à l'intérieur des entreprises, vous avez des tensions, c'est normal, il ne faut pas en avoir peur, des tensions, ce n'est pas de la schizophrénie, hein. C'est des tensions créatrices qui font que l'ensemble des divisions d'un groupe qui peuvent avoir des intérêts contradictoires d'apparence doivent avancer ensemble dans cette transformation. Je vais m'arrêter là, en vous remerciant. Merci.